Tout téléspectateur, bon.
J'ai entendu ça aux infos.
Twitter.
Les réseaux sociaux. Il est très cher. Il est très cher. Allô.
Allez, PNC, à vos postes, désarmer les toboggans, c'est vendredi, dernier virage de l'instant M.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Un instant M aujourd'hui avec un M comme... Moi, mes amis, je crois bien que j'aurais du mal à faire son métier. Mais j'admets qu'elle le fait drôlement bien. Mais dis donc, et si on invitait celle qui a pour mission de supporter Zemmour pour lui tirer le portrait ? Bonjour Anaïs Bouton.
Bonjour.
Vous présentez Zemmour et Nolo depuis le mois de septembre sur Paris Première. On en parle juste après le jeu du vendredi. Et Philippe Vandel, bonjour Philippe.
Bonjour Bruno.
Philippe Vandel qui n'a pas été invité cette semaine à la conférence de presse de François Fillon et qui le regrette apparemment un peu vivement.
L'instant M, le rendez-vous média de France Inter.
Alors, c'est vendredi, et vous le savez, tous les vendredis, en partenariat avec Lina, on joue dans l'instant M. Et qu'est-ce qu'on gagne aujourd'hui ? Eh bien, on gagne un coffret de deux DVD qui s'intitule François Mitterrand, le pouvoir de l'écran, et qui propose une petite sélection des meilleurs entretiens télévisés que François Mitterrand a accordé au moment clé de son parcours, depuis le fameux congrès d'Épinay jusqu'à ses dernières années, et ses confidences faites à Jean-Pierre El Kabbage. Pour jouer avec nous, c'est comme d'habitude, c'est pas dur. Vous nous envoyez un petit mail à linstantm@radiofrance.com. Si, et seulement si, vous reconnaissez le nom de la personne que je vais vous faire entendre tout de suite, ouvrez bien vos oreilles, on est en juillet 1946 et dans la Tribune de Paris, on débat, de la liberté d'expression et de la liberté de la presse.
C'est bien qu'il y a différentes façons de raconter les choses. On peut raconter la même chose de diverses façons, à la condition qu'il y ait à la base une honnêteté et une probité fondamentale. Je pense que ça doit être des éléments qui doivent être l'honneur du journalisme, l'honneur de la profession.
Voilà, l'instant M à radiofrance.com, le premier qui arrive à gagner. Alors, Philippe Vandel, conférence de presse de François Fillon, en plein Penelope Gate, vous n'y étiez pas, et pourtant.
Exactement, on allait voir ce qu'on allait voir, les bazookas étaient sortis, première question.
Vous venez de présenter vos excuses aux Français. Est-ce que vous estimez néanmoins d'être toujours le meilleur candidat pour faire gagner votre camp, ou est-ce qu'aujourd'hui vous êtes un handicap pour que la droite remporte l'élection présidentielle ?
Et là, t'imagines François Fillon répondre « Non, effectivement, je suis un handicap pour mon camp, mais je vais quand même me présenter parce que je pense qu'à ma gueule. » La question, il faut pas poser une question dont on connaît la réponse à l'avance. Et ensuite, il dénonce la campagne dont il a été l'objet pendant 10 jours, depuis le premier article du Canard Enchaîné.
10 jours de lynchage médiatique. Après 10 jours pendant lesquels seule l'accusation a eu la parole.
C'est vrai. Mais là, pas un journaliste pour expliquer que c'est parce que c'est lui qui refusait de répondre. Et quand les télés ou les radios appelaient pour avoir un filloniste en interview, personne ne voulait y aller à part les deuxième ou troisième couteaux. Normal que ce soit à sens unique. Alors, le Canard Enchaîné a annoncé des sommes folles, 900 000 euros. François Fillon les conteste car lui parle en net et non en brut, donc c'est 680 000 euros Bruno. Sauf qu'il n'y a personne pour lui dire que l'argent public c'est en brut et pas en net. Mais passons, question suivante.
Avez-vous songé, monsieur le Premier ministre, à rembourser ces sommes ?
Bonne question, et là François Fillon répond, je cite, « Pourquoi rembourserais-je des sommes qui correspondent au travail de ma femme ?» Et là, personne ne lui demande pourquoi ces sommes sont aussi élevées. Alors, il faut le reconnaître, il y a une question longue et vraiment précise.
Vous avez déclaré aux 20h de TF1 le 26 janvier avoir embauché votre femme à l'Assemblée nationale à partir de 1997. C'était 2 jours après les premières révélations du Canard Enchaîné, j'imagine que vous aviez déjà pu parler avec vos équipes à ce moment-là. Et vous avez également ajouté qu'avant, elle travaillait avec vous bénévolement, ce sont vos mots, depuis 1981, depuis votre premier mandat dans la Sarthe. Or, nous avons appris quelques jours plus tard qu'en fait, ses premiers contrats de travail remontaient en réalité à 1988. Ma question est assez simple, est-ce que vous avez menti au JT de TF1 ? Et si oui, pourquoi ?
Alors François Fillon a assuré qu'il n'avait pas menti, mais qu'il était déstabilisé. Et dans le même JT de TF1, il avait déclaré n'avoir qu'un seul compte en banque. Or, il se trouve que la loi oblige les députés à avoir 2 comptes en banque. Et puis pendant cette conférence de presse, 5 minutes avant, il a révélé avoir 17 comptes en banque. Alors question de base, comment est-il possible de confondre le chiffre 1 avec le chiffre 2 et avec le nombre 17? C'est-à-dire que même un enfant de 5 ans qui est en maternelle fait la différence. Et bien vous savez quoi? La question ne lui a pas été posée. En tout cas, François Fillon a pris la décision de se présenter, mais attention, question.
Si vous chutez dans les sondages, vous risquez de faire perdre votre famille politique et de ne pas être présent au deuxième tour. Est-ce que vous pourriez revenir sur votre décision d'aujourd'hui?
Alors là, c'est cadeau, parce que si les sondages disaient vrai, il n'y aurait pas eu Trump, il n'y aurait pas eu le Brexit, et Fillon n'aurait pas gagné la primaire. Allez, une autre question.
Est-ce que vous avez envisagé de rembourser une partie des sommes, ou l'intégralité de la somme? Certains de vos amis ont même imaginé que vous puissiez faire un geste une fois sorti de la procédure.
Pas de bol, ce journaliste a reposé la question qui avait été posée 10 minutes avant, mais il devait envoyer des SMS, il n'écoutait pas.
En tout cas, il s'appelle Bruno Jeudi. Ouais.
C'est bientôt la fin, et voici la question Cluedo.
Vous avez parlé d'une tentative d'assassinat politique, mais alors d'après vous, à qui profite le crime ?
Eh ben encore un cadeau, à qui ça profite ? Ben à ses adversaires bananes. Alors je passe les questions annexes, aucune n'a mis François Fillon en difficulté.
Il fait tous les fruits et légumes.
Pas même une évocation du salaire de sa femme à la revue des Deux Mondes. 100 000 euros pour deux notes de lecture en 18 mois, on voudrait tous savoir ça, et je le laisse conclure.
Merci beaucoup.
Des applaudissements. Et là, je me dis, mais qui a applaudi qui? Eh bien, j'ai pas la réponse. Là non plus, la question n'a pas été posée.
Est-ce que vous voulez qu'on vous applaudisse, Philippe Vandel?
Pas du tout.
Bon, alors on va applaudir notre gagnante. N'appelez plus. On a une gagnante. Elle s'appelle Maëva. Elle a reconnu Pierre Dac. Et Pierre Dac qui disait un petit truc que je vous soumets. Il a dit une fois dans sa vie, il vaut mieux passer hérité à la poste que de passer à la poste hérité.
L'instant M. Bruno Donnet.
Vous êtes comme Tapie, vous êtes un ringard du Pont-Moretti. On se croirait dans les années 80 du Pont-Moretti.
Moi, je vais pas vous
c'est des arguments bidons des années 80.
Moi, je
mais arrêtez avec vos arguments des années 80, c'est terminé.
C'est terrifiant.
Ça, c'est
Thierry Pont-Moretti.
Oui. Pont-Moretti. Non, mais c'est insupportable.
Mais non, mais c'est vous qui êtes insupportable. C'est
vous qui êtes insupportable. C'est des arguments tellement bidons que
c'est insupportable.
Pourquoi c'est bidon ?
C'est des bidons.
Voilà, ça s'est passé mercredi sur Paris Première. Engueulade monumentale entre l'avocat Éric Dupond-Moretti et Éric Zemmour. Anaïs Bouton, c'est quoi votre job ? Ça consiste à souffler sur les braises dans cette émission ou à canaliser Éric Zemmour ?
Ah non, je crois pas du tout que ça consiste pas du tout à souffler sur les braises. J'essayais là, et d'ailleurs il faut encore que je m'améliore parce que de reprendre un peu la parole, mais quand vous avez deux bêtes pareilles, c'est pas simple. Non, c'est pas du tout, c'est d'être l'arbitre du débat de façon neutre. On a un type de gauche, un type de droite, et c'est un débat démocratique. Voilà. Donc,
alors, je disais dans le préambule de cette émission qu'on n'aimerait pas être à votre place. Éric Zemmour, vous partagez à peu près quel pourcentage de ses points de vue ?
Très peu. Mais c'est pas le débat, en fait. C'est pas le débat. Le débat, c'est que sa parole a un écho en France. Sa parole est un courant de pensée, c'est très fort.
C'est incontestable.
Et que du coup, soit on l'exile au bagne de poule au Condor qui n'existe plus, soit on le fusille. Mais à partir du moment où il existe, il faut bien lui porter une contradiction.
Alors vous êtes la maîtresse de cérémonie de l'émission.
C'est ça, je suis la maîtresse
Zemmour
de cérémonie.
Zemmour-Enolo, je suis content que le terme vous plaise, depuis le mois de septembre.
Oui.
Et avant vous, il y avait une autre journaliste, mais... Au début, Zemmour-Enolo, eh ben, ça se passait comme ça.
Bonsoir à tous, bienvenue à la 26e de Zemmour-Enolo. Zemmour, c'est lui, Enolo, par conséquent, c'est moi. D'accord sur rien, mais prêt à débattre de tout, et c'est ce que nous ferons ce soir encore en compagnie de nos invités. Comment vas-tu, mon cher Éric ?
Voilà, Zemmour et Nolo étaient seuls. Ils présentaient leurs invités comme des grands. Et puis, bah, votre chaîne a décidé de les faire accompagner. Alors, c'est vous qui vous y collez. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'était difficile de les laisser en majesté, que c'est plus raisonnable de les maintenir dans un rôle de chroniqueur?
C'était Éric Nolo qui présentait l'émission, en fait. Et il se trouve que ça obérait un peu, que ça affadissait sa partie vraiment bretteur, chronique. Il devait tenir la bête d'un côté et en même temps assumer
l'émission. La bête, c'est Zemmour.
Et en même temps, incarner l'émission, accueillir les gens, etc. C'était un rôle qui était compliqué, ce qui fait parfaitement bien d'ailleurs dans sa balance. Mais du coup, dans Zemmour et Nolo, ça affadissait son poids de bretteur, je vous dis. Et du coup, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui est vraiment neutre entre les deux et qui distribue la parole.
C'est quoi un bretteur ?
Un combattant, quoi.
Ah oui, en français dans le texte. Alors je vous pose cette question, Anaïs Bouton, pas celle sur le bretteur, mais sur leur rôle à l'un et à l'autre, parce que avant d'être l'animatrice de Zemmour et Nolo, vous avez très longtemps été la directrice des programmes de Paris Première. Et est-ce que c'est vous qui avez encouragé cette évolution de l'émission ?
L'évolution de l'émission. Non, moi j'étais
plus tout seul.
Moi j'étais pour qu'il soit tout seul. Ah. Et puis en fait, le patron de la chaîne a estimé qu'il fallait quelqu'un. Et c'est un argument que je comprends tout à fait. Et je trouve ça pas mal en fait. Effectivement, je trouve que ça a redonné à Éric Nolo toute liberté pour fondre sur Zemmour. Voilà.
Donc Anaïs Bouton, vous étiez précédemment directrice des programmes de Paris Première, ce qui veut dire que vous étiez dans l'ombre.
Qu'est-ce... Ça veut dire que j'étais la patronne de Philippe.
Par exemple, de Philippe.
Qui est passé comme un très grand nombre de grands noms de l'audiovisuel par Paris Première, qui est la chaîne des Esprits Libres.
Et qui présentait Pif Paf. Qu'est-ce qui vous a donné envie de nous montrer enfin votre bobine à l'écran ?
J'ai pas eu envie enfin. J'avais fait de l'antenne il y a très longtemps avec Marie Drucker, Rachène Kahn, c'était Rince la Baignoire,
on s'en souvient,
etc.
Oui.
Je détestais ça. J'étais paniquée, traqueuse, c'était épouvantable. Et en fait, il se trouve que l'année dernière, la jeune journaliste, qui est très bien d'ailleurs, devait partir, on cherchait quelqu'un, etc. Et le patron de la chaîne, nouveau Jonathan Curiel, m'a dit « mais prends-le, t'as fait de l'antenne ». Je n'avais pas du tout envie, puis en fait je l'ai fait, et je, avec cette campagne qui est quand même merveilleuse, je m'éclate.
Est-ce que vous voulez quand même bien me dire pour quelle raison est-ce que vous l'avez pas fait plus tôt ? Qu'est-ce qui vous a retenu ? Vous aviez des doutes ou juste pas envie ? Vous étiez complexée ?
Pourquoi j'ai pas fait d'antenne plus tôt ?
Ouais,
non, j'étais très traqueuse, ouais, je détestais ça en fait. Et là, maintenant, j'aime ça. Il y a des imbéciles qui ne changent pas d'avis.
Bon, alors, vous avez une mission délicate, hein, on l'a compris, j'y reviens pas. Néanmoins, vous avez réussi à trouver quand même votre propre espace, à éditorialiser presque, mine de rien.
J'espère. Ouais, mais c'est comme le Zemmour qui cache la forêt, hein, le Zemmour. Parce que c'est une émission, c'est la seule émission hebdomadaire politique. Je pense que c'est une des meilleures, et comme c'est la seule,
c'est la
meilleure.
Non, c'est pas la seule émission hebdomadaire politique, il y en a d'autres quand même.
Laquelle ?
Bah, il y en a ici même qui passe sur France Info.
Oui, d'accord. Oui, je vous parle à la télé. C'est une équipe, une toute petite équipe. Michaël Moreau, Fabrice Pirot, et puis des jeunes journalistes super. Et on se donne un mal fou pour que les gens viennent débattre, et parce que c'est le devoir du politique et de l'intellectuel de venir se confronter.
Alors, je disais que vous avez trouvé presque mine de rien votre espace entre les deux durs à cuire, Zemmour et Nolo, et les quelques rubriques de l'émission. On va écouter comment, mercredi dernier, par exemple, vous avez dit ça.
C'est à vous, et pendant ce temps-là, moi, comme Pénélope ou pas comme Pénélope, je fais tapisserie.
C'est important pour vous que ceux qui vous regardent sachent aussi comment vous vous situez par rapport à l'actualité ?
Non, pas du tout. Je m'en fous pas. Je suis neutre. Vous m'avez dit que j'étais maître de cérémonie, c'est ce que je suis. C'est le terme que je retiendrai de notre entretien.
Ouais, enfin, quand vous dites que vous faites tapisserie comme Pénélope Fillon, vous êtes tout à fait neutre là quand même.
Ah oui, oh, c'était une petite boutade.
Ouais. Alors Anaïs Bouton, vous avez une autre particularité, c'est que la chaîne sur laquelle vous travaillez, Paris Première, vous lui vouez une extrême fidélité. Ouais. Vous y avez débuté il y a un peu plus de 20 ans.
Bruno, on y a débuté ensemble.
On s'y est croisés, je faisais un stage.
Stagiaire.
Vous aussi.
C'était à l'époque de Victor Hugo.
Exactement. Et vous l'avez très peu quitté. Vous avez fait quelques petits détours, mais très peu. Alors, dans le paysage audiovisuel actuel, c'est une grande rareté. Qu'est-ce qui vous attache à ce point,
non,
à cette chaîne ?
Non, très peu quitté, si. J'ai travaillé pour le groupe Canal, pour France Télé, pour Arte. Puis après, j'ai dû acheter un appartement.
Vous avez fait des parenthèses.
Fallu un CDI. Je suis devenue l'adjointe de Jacques Expert.
Je vous demandais qu'est-ce qui vous attache
à
Paris Première.
J'adore cette chaîne. C'est de la chaîne des esprits libres. Ça a toujours été une chaîne qui est capable de faire un grand écart entre les grosses têtes, la revue de presse, du théâtre des Deux Ânes et Rive Droite, Rive Gauche, le dîner de Thierry Ardisson. C'est une chaîne de personnalité. C'est la plus belle chaîne pour moi.
Alors c'est quand même une chaîne qui a beaucoup évolué depuis que nous étions stagiaires. À cette époque, on n'y parlait quasiment que de cinéma, de théâtre, de littérature, de peinture, d'expo, etc. Et aujourd'hui...
Après, il a fallu faire un peu d'audience.
Voilà, vous me l'enlevez de la bouche, il a fallu organiser un peu l'engueulade. Est-ce que c'est pas ce qu'on fait beaucoup sur Paris Première ?
Organiser l'engueulade ? Ah non, je dirais pas ça, non. Je dirais débattre. Si vous dites organiser
non,
l'engueulade...
On y fait beaucoup de talk-show.
Non, c'est une chaîne pamphlétaire, c'est une chaîne qui a le sang chaud, c'est aussi une chaîne qui est capable de proposer des programmes comme Très Très Bon, qui est exceptionnel, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une des meilleures audiences avec nous de la chaîne. C'est une chaîne vivante, ouais. Qu'elles sont chaudes, ouais, c'est vrai.
Alors, Paris Première, c'est quand même une chaîne qui a un problème qui n'est pas mince. Elle est payante. Et en dépit de tous vos efforts, d'une demande qui a été faite au CSA pour bénéficier sur la TNT d'un canal gratuit, tout le monde ne peut pas vous voir. Depuis cet été, LCI, qui, comme vous, a fait la même demande auprès du CSA, a obtenu une fréquence sur la TNT. Est-ce que c'est une frustration pour vous ? Est-ce que ça pose un problème ?
Oui, c'est une frustration. Parce que je pense qu'elle a... C'est une chaîne d'intérêt public. Oui, c'est une frustration. Mais je pense que le CSA reviendra sur cette décision. C'est sûr. Enfin, j'espère, en tout cas.
Qu'est-ce que vous avez fait, vous, quand vous étiez aux manettes auprès du CSA ? Comment ça se passe, les
relations ? Non, on a essayé de leur expliquer en quoi la chaîne était différente des autres et qu'elle avait toute sa place dans l'offre. Voilà, ça n'a pas marché. Peut-être qu'on a été nuls. Hein. Il faut qu'on remette sur le métier notre ouvrage.
Et comment vous expliquez qu'ils ne vous aient pas entendu ?
Je sais pas, franchement, je ne sais pas pourquoi ils ont mis une autre chaîne d'infos plutôt qu'une chaîne culture et débat, je ne sais pas. Franchement, il faut leur demander à eux.
Alors, Anaïs Bouton, qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous soyez exfiltré de Zemmour et Nolo? Pour que vous n'ayez plus à vous taper Zemmour.
Pourquoi vous voulez m'exfiltrer? Je suis très bien là-bas.
Et qu'on vous voit, par exemple, animer une émission culturelle ou une émission d'entretien.
Non, mais je suis très bien là. Je suis très bien. En plus, mais regardez cette campagne. Et le mal que les hommes politiques se donnent pour que ça soit, c'est un rebondissement. C'est les feux de l'amour, cette campagne. C'est exceptionnel à suivre. Franchement, c'est exceptionnel à suivre. Moi, je suis très contente là-bas. Une émission culturelle. Mais je fais des chroniques dans Sa Balance avec Eric. J'aime bien aussi, c'est vrai. Mais voilà, là, pour l'instant, je fais ça, je suis très contente.
Alors, je vais faire quelques questions sur l'actualité. Qu'est-ce qui vous a saisi cette semaine sur l'actualité politique?
C'est ce dont parlait Philippe, c'est la conférence de presse de François Fillon. C'est incroyable ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on va peut-être arriver en France à un moment où les deux grands partis historiques, et c'est la première fois de la Ve République, peuvent ne pas être au second tour. C'est quand même... très grave, très signifiant. Enfin, vous voyez tout ce qui se passe dans le monde, entre le Brexit, Trump, les démocraties illibérales qu'on appelle maintenant des démocratures, ça chauffe. Donc, c'est important de débattre.
Alors, il y a un petit problème aussi qu'on a évoqué cette semaine au tout début, lundi, dans l'instant même, c'est le fameux équilibre des temps de parole.
Oui, ça va être compliqué, oui.
Comment vous faites-vous pour gérer ça? Vous invitez des hommes politiques dans votre émission. Comment vous allez faire, là?
Ben, on va faire ce que le CSA nous demande, c'est-à-dire qu'on va faire un respect de l'équilibre. C'est à partir d'avril que ça va devenir vraiment très... C'est
D'abord l'équité, ensuite l'équilibre.
Oui, c'est ça. Ouais.
L'égalité.
L'égalité stricte, puis l'équité, oui.
Donc après, je sais pas...
Est-ce que ça veut dire que si vous voulez recevoir Emmanuel Macron pendant 20 minutes, vous allez devoir vous taper Philippe Poutou, Nathalie Arthaud?
Très probablement, oui.
Comment on fait dans ces cas-là, alors?
Je sais pas comment on va s'organiser. On a une réunion là-dessus, d'ailleurs, cette semaine. Vous posez une question qu'on se pose aussi. Alors, c'est pas 20 minutes. On reçoit les gens, on reçoit les hommes politiques et les intellectuels 40 minutes. C'est un vrai débat. C'est pour ça que les gens viennent, d'ailleurs. C'est parce qu'ils savent qu'on cherche pas la petite phrase, qu'on cherche pas le buzz, c'est vraiment du débat, du temps long. Et c'est très rare, Bruno. Franchement, je vous le dis, c'est rare.
Je suis convaincu, c'est la raison pour laquelle vous êtes là. Néanmoins, il y a cette engueulade là avec Éric Dupond-Moretti. Quelques semaines précédemment,
Bernard Tapie
s'est fait engueuler par Zemmour et il lui a bien rendu. Comment vous faites pour que ce soit pas toujours le pugilat, quand même?
Non, mais c'est pas toujours le pugilat. Cette saison, 150 invités par saison, et il se trouve que vous parlez de deux trucs. Bernard Tapie, on sait ce que c'est aussi, c'est un taureau. Là, j'étais déguisée en dompteuse carrément. c'était la fin de l'affaire Adidas. On l'a invité, c'était sûr que ça allait se passer comme ça. Voilà.
Allez, merci beaucoup, Anaïs.
Je vous en prie, merci de m'avoir invité.
Par l'instant M, c'est
bonjour.
Fini. Un immense merci à toute l'équipe qui m'a aidé tout au long de cette semaine. Merci à Anne-Cécile Perrin qui réalise l'émission, à Redouane Tella qui la programme, à Mathilde Verfaille qui la prépare et à Raphaël Rousseau qui l'a réalisé. Aujourd'hui, dès lundi, vous retrouverez l'irremplaçable Sonia de Villers en pleine forme. Bonjour, Ali Rebelli.
Bonjour, Bruno Donnet. Ce fut animé avec brio cette semaine.
Merci beaucoup. Quel est le programme de Grand Bien
Vous Fasse? Ce matin, nous recevons Tal Ben-Shahar. Tal Ben-Shahar, c'est un professeur de psychologie positive. Il dispensait, il y a quelques années, des cours de bonheur à l'université Harvard. Et il va nous délivrer sa conception du bonheur ce matin dans Grand Bien Vous Fasse. 01 45 24 7000.
Juste après les infos.